Chapitre 69. Le soulagement d'avoir dit la vérité ne dure que quelques secondes avant que monte l'angoisse d'être pris au piège. Rex tranche le pain nordique un peu humide, sans que ses mains tremblent légèrement et pose le couteau sur la planche à découper. Il ne comprend pas ce que cherchent les agents de la CEPO. Peut-être ont-ils eu connaissance de la vidéo depuis le début. Peut-être Saga a-t-elle vu le sang sur sa chaise quand elle est venue chez lui. Rex se demande s'il ferait mieux d'être prudent et de contacter un avocat, ou tout simplement de parler de la bagarre entre DJ et un ivrogne. « Je croyais que vous vouliez parler du meurtre de Teddy Johnson », dit-il au bout d'un moment. « Vous avez des informations à nous fournir ?» demande Janus Mikkelsen en le dévisageant. « Non, mais j'étais là quand c'est arrivé. » « Nous avons déjà une foule de témoins », dit Janus, et il se bouche une oreille pendant un instant. « Évidemment, alors c'est quoi que vous voulez savoir au juste ?» demande Rex, et il s'éclaircit la voix. « Je voudrais vous demander pourquoi vous traitez le ministre de salaud et pourquoi vous pissez dans sa piscine », répond Saga Bauer doucement. « D'accord », chuchote-t-il. « Samy, je précise que ton père n'est soupçonné d'aucun crime », souligne-t-elle. « C'est mon père que sur le papier », répond Samy. Rex se lave les mains et les essuie avec un torchon en lin. Au lycée, quand il était jeune, notre ministre des Affaires étrangères était un... comment dire ? J'avais de meilleurs résultats que lui et Ville ne le supportait pas. Je veux dire... Il obtenait toujours la note maximale dans toutes les matières, puisque sa famille avait participé au financement de l'établissement pendant 100 ans. Mais ça ne lui suffisait pas. Quand il a su que je sortais avec une nana canon d'une autre classe, il a fallu qu'il couche avec elle. Et c'était seulement par esprit de domination, pour montrer le pouvoir dont il jouissait au lycée. Il était comme ça. Elle avait peut-être envie de coucher avec lui, propose Saga. Oui, elle en avait sans doute envie, mais... Et je ne dis pas que mes intentions étaient plus nobles que les siennes, mais il se trouve que j'étais réellement amoureux d'elle. Alors que lui, il s'en fichait complètement. Elle n'était rien pour lui. Comment pouvez-vous savoir qu'il n'était pas fou amoureux de votre copine ? Demande Saga. Il l'a dit. Il la traitait de tous les noms. Matelas ambulant, sac à bite... Un beau salaud, effectivement, reconnaît-elle. J'ai bien conscience que tous ceux qui fréquentent le lycée de Ludwigsberg sont des privilégiés, poursuit Rex. Mais, vu de l'intérieur, l'école était soigneusement scindée en deux parties. Les nouveaux riches, dont je faisais partie, et les quelques rares qui, génération après génération, avaient leur rang, leur place à part, leur garantie. Tout le monde savait qu'il y avait des règles spéciales, des bourses et des clubs fermés rien que pour eux. Pauvre papa, ironise Samy. Samy, j'avais 17 ans, on est assez fragile à cet âge-là. Je rigolais. Je sais, mais je tenais à le rappeler, précise-t-il. Puis il se tourne à nouveau vers Saga. Quoi qu'il en soit... Notre futur ministre des Affaires étrangères était le président d'un club masculin extrêmement prestigieux qui était situé sur le campus. Je ne sais même pas comment il s'appelait vraiment, mais je me rappelle que Ville appelait leur local le terrier de lapin. Et quand Grace, ma copine donc, y a été admise, je ne valais plus un clou à ses yeux. Je peux le comprendre. Mais elle... Elle ne savait pas ce qu'il disait dans son dos. Pour elle, c'était des stars, des célébrités. Il se rend compte que le visage de Saga s'est figé une fraction de seconde, comme si ce qu'il venait de dire avait particulièrement attiré son attention. « Qui d'autre faisait partie de ce club de lapins ?» demande-t-elle. « Ils étaient les seuls à le savoir. C'était secret, je m'en fous. »« Vous ne connaissez pas d'autres membres ?» « Non. C'est important, » dit Saga en élevant la voix. « Du calme, chuchote Janus, et il prend un verre à vin sur l'étagère. Je m'étais bien gardé d'approcher leur bande, répond Rex. J'ignore complètement qui en faisait partie. J'essaie juste d'expliquer pourquoi je ne pouvais plus supporter le ministre des Affaires étrangères quand j'étais ivre et pénible. Mais cette Grace doit savoir qui en faisait partie, remarque Saga. Évidemment. Janus Mikkelsen fait tomber le verre par terre et les éclats s'éparpillent entre les meubles de cuisine. Je suis désolé, dit-il, le front blanc d'émotion. Vous avez un balai ? Laissez, je m'en occuperai, répond Rex. Pardonnez-moi, murmure Janus, et il commence à ramasser les plus gros éclats. Vous savez où je peux trouver Grace ? Demande Saga. Je sais juste qu'elle venait de Chicago. Après le départ de Saga Bauer et de son collègue, Rex fait sauter des girolles et deux tranches de pain nordique dans du beurre, dispose l'ensemble sur des assiettes creuses et verse le consommé dessus. Sammy et lui restent côte à côte devant le plan de travail pour manger. « C'est bon, » dit Sammy. « Goûte. Goûte vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je trouve que c'est bon, c'est tout. » « Ça manque peut-être un peu d'acidité, » juge Rex. « Je testerai avec un peu de citron vert demain. » « J'en sais rien, je te dis, ne me regarde pas comme ça. » Rex n'arrive pas à se débarrasser du malaise qui persiste après l'entretien. Le simple fait d'avoir mentionné Grace a éveillé une sorte d'angoisse dans son cœur. Il se souvient seulement qu'elle avait refusé de le voir et n'avait plus jamais répondu au téléphone. « Elle était vraiment incroyable, » s'extasie Sammy en terminant son assiette. « Qui ça ? » ?»«
Qui ça ? Tu veux rire ?»«
Ah oui, la flic, je sais. C'est la femme la plus belle que j'ai jamais vue. À part ta mère, bien entendu. »« Papa, j'ai du mal à croire que t'as escaladé le mur du ministre des Affaires étrangères et que t'as pissé dans sa piscine. »« Je l'aimais pas trop. » »« Manifestement. » Rex hésite un peu avant de poursuivre. « Je n'ai pas tout raconté à la police. Ce n'est pas le moment d'être mêlé à des histoires. »«
Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Rien. Simplement, je ne veux pas qu'ils aillent croire que j'ai quoi que ce soit à voir avec la mort du ministre. » Sammy hausse les sourcils.
« Pourquoi ils croiraient ça ?»«
Parce que la vérité, c'est que ces mecs du lycée m'ont fait entrer dans la grange un soir et m'ont filé une rouste de première. Ils m'ont cassé plusieurs côtes et ils m'ont fait ce cadeau-là. » Dit Rex, en montrant la profonde cicatrice sur l'arête de son nez. Ce n'était peut-être pas gravissime, mais tu sais ce qu'on ressent dans ces cas-là, la fierté. J'ai compris que je ne pourrais pas continuer à les croiser tous les jours, à faire comme si rien ne s'était passé, à devenir leur souffre-douleur. Et du coup, j'ai quitté le lycée.
C'était à eux de partir.
Aucune chance. Ils avaient tout le pouvoir et moi, je n'avais personne à qui me confier. Le proviseur, les profs, tout le monde les couvrait.
Tu devrais le raconter à la police, déclare Sammy d'un air grave.
Impossible.
Mais papa, tu ne crains rien. Tu es cuisinier, tu es gentil et tu n'as jamais rien fait de violent de toute ta vie.
Ce n'est pas aussi simple que ça. Réplique Rex. Sammy tâte les sachets de viande sous vide dans l'eau, vérifie la température et le minuteur du circulateur thermique.
Ça fait 2 heures maintenant que la viande macère là-dedans, annonce-t-il.
Alors, tu vas prendre du beurre, quelques brins de thym, une gousse d'ail. Le soleil se cache derrière des nuages et une pluie grise frappe mollement la fenêtre qui donne sur la cour. L'éclairage électrique paraît cru, cerné d'ombre mouvante. Soudain, Rex a l'impression d'entendre un bruit dans la salle du restaurant, comme si un corps revêtu de plastique passait entre les tables. Il s'approche lentement de l'office qui fonctionne comme un sas entre la cuisine et la salle à manger, s'arrête, pousse doucement la porte et tend l'oreille.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
demande Sammy derrière lui.
« Je ne sais pas. »
Rex ouvre complètement la porte pivotante et pénètre dans la salle vide. On se croirait dans un rêve. les tables mises, la pluie qui ruisselle sur les fenêtres et la lumière moirée qui inonde les nappes blanches, les couverts argentés et les verres à vin. Rex sursaute lorsque le téléphone dans sa poche arrière se met à sonner. Le numéro est masqué, mais il répond quand même. Il n'y a pas beaucoup de réseau, ça crépite dans son oreille. À travers les grandes fenêtres, il voit passer des voitures et des gens munis de parapluies. Il répète son nom, attend quelques secondes et s'apprête à raccrocher quand il entend une voix d'enfant lointaine.
« 10 little rabbits all dressed in white try to go to heaven on the end of a kite. »
« Je pense que vous vous êtes trompé de numéro, » dit Rex en anglais, mais l'enfant ne semble pas l'entendre. Il continue à réciter la comptine.
« 9 little rabbits all dressed in white try to go to heaven on the end of a kite. » Kite string are broken. Down they all fell. Instead of going to heaven, they went to...
Rex écoute le compte à rebours de la comptine avant que la communication s'interrompe. Dehors, il voit un enfant qui se tient sous le viaduc, 50 mètres plus loin. Son visage, dissimulé par une ombre grise, disparaît entièrement quand il se détourne et s'enfonce dans l'obscurité du parc de stationnement.